Merci beaucoup, Dr. Martry, pour vos propos éloquents et brillants. Enfin, nous allons accueillir Madame Vega, Annabelle, psychologue clinicienne à l'unité de médecine légale du centre hospitalier de Dax. C'est à toi, Annabelle.
Merci. Bonjour. Donc, je suis psychologue clinicienne depuis quelques années. J'ai été diplômée de l'Institut de criminologie de Paris 2 à Sas aussi. Et je fais de l'évaluation du retentissement psychologique depuis 2007, c'est-à-dire avant 2010, ce qui fait de moi, selon le discours de mon voisin de gauche, une mercenaire. L'évaluation du retentissement psychologique, donc j'ai travaillé à l'unité de médecine légale et sociale du 93 pendant 15 ans, et j'ai quitté cette unité l'année dernière pour rejoindre l'équipe de l'unité de médecine légale de Dax. Et je me disais, probablement un peu naïvement, qu'un certain nombre de difficultés que je rencontrais dans mes communications avec les OPJ et la justice, je ne les retrouverais probablement pas dans une petite UMJ rattachée à un petit tribunal. C'est complètement faux. Donc à 750 km, on a toujours les mêmes difficultés et les mêmes demandes, parfois particulières, parfois franchement difficiles à gérer, d'autant que souvent elles sont relayées avec beaucoup d'insistance. Je vais y revenir. Il y a, on l'a vu ce matin, une prise en compte grandissante de l'impact psychologique par le législateur sur un certain nombre d'infractions qui ont été créées. Je parle un peu comme une vieille, mais en fait, il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas prises en considération il y a 16 ans, qui le sont maintenant, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Il y a aussi la prise en compte dans les recommandations de l'HAS, on en a parlé aussi, ce qui est évidemment une excellente nouvelle. Ça n'implique pas l'existence d'une ITT psychologique, et je pense, au bout de quelques années d'exercice, qu'on peut parfaitement évaluer le retentissement psychologique et l'état psychique d'une victime sans avoir à parler d'ITT psychologique. Et évidemment que nous le ferons de la manière la plus fine possible, parce que nous le faisons avec rigueur et nous le faisons de manière fine parce que c'est la seule mission que nous avons à faire. Donc nous la remplissons correctement. Ça ne part pas dans tous les sens avec toutes les questions que vous disiez, avec toutes les questions que mon voisin de gauche disait tout à l'heure. Donc le rôle des psychologues en médecine légale est primordial, je le dis en toute modestie. Pour l'évaluation du retentissement psychologique, évidemment, mais pas que, j'ose espérer. L'enquête a montré tout à l'heure qu'effectivement, on était important dans l'évaluation du retentissement psychologique. On est aussi dans le prendre soin. On n'évalue pas à tour de bras. Pour faire un papier, on reçoit des gens. On est souvent les premiers psys que les victimes voient. Après des faits, un dépôt de plainte, parfois plusieurs années entre les faits et le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte qui est parfois difficile. La confrontation qui a été faite, qui a probablement été difficile, ou la confrontation qui va venir, et là on a affaire à des personnes qui sont dans l'anticipation anxieuse de ce qui pourrait se passer. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, l'évaluation du retentissement psychologique ne se fait jamais de manière totalement isolée du reste de la vie d'une personne. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. À mon sens, cette évaluation du retentissement psychologique, et là je suis un petit peu dans le rêve, mais j'assume, devrait rester une mission de service public à l'hôpital. Ce n'est pas le cas. On a parlé tout à l'heure de pénurie de psychologues, notamment de psychologues qui font des retentissements psychologiques. Ça ne va pas s'arranger au vu des demandes et des pressions que nous subissons au quotidien. Donc moi, j'avais envie d'orienter mon discours sur la prudence qu'il faut qu'on ait, parce qu'on en demande de plus en plus aux psychologues en médecine légale. Donc on nous demande de nous substituer à l'expert parce qu'il manque des experts. Je suis désolée madame, j'ai pas d'expert. D'accord. On nous demande d'assister le médecin légiste dans la détermination de l'ITT, alors que celle-ci, on l'a vu un petit peu, est déjà extrêmement disparate en fonction des médecins, en fonction des services, en fonction de ce qu'ils prennent en compte ou pas, et de ce qu'ils veulent prendre en compte ou pas. Et donc, les psychologues n'ont pas vocation à être des assistants des médecins. Vous êtes psychologue pour certains, vous êtes médecin pour d'autres, vous travaillez avec des psychologues, vous aurez remarqué cette espèce de tendance à revendiquer leur autonomie. Je pense que ça peut être un levier pour en faire partir quelques-uns qui resteraient. Donc prudence, nous sommes en voie de disparition, à l'hôpital en tout cas. On nous demande aussi de déterminer, et alors là je mets des guillemets avec tous mes doigts, une ITT psychologique, parce que non, elle n'existe pas. L'ITT est déjà bien floue, elle est à mon sens un outil qui ne devrait pas continuer à exister en l'état, ça n'engage que moi. Elle mériterait de faire l'objet d'une harmonisation, c'est très clair. C'est pas très enviable, en fait, de vouloir toucher à l'ITT. Si on ajoute à ça qu'on nous demanderait de quantifier une souffrance psychologique qui va de toute manière bien au-delà des 8 jours pour la quasi-majorité des cas, on est dans l'illusion la plus totale. Et donc, il faudrait déterminer par moment, c'est des demandes qu'on a, une ITT psychologique en plus d'une ITT somatique qui aurait déjà, exclusivement somatique, qui aurait déjà été déterminée, et parfois même en plus d'une ITT gynécologique. Et donc là, on a un seul et même individu saucissonné, avec une tête d'un côté, un appareil génital de l'autre et un corps. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? Le danger, et on tourne autour un petit peu depuis ce matin, c'est la notion de crédibilité. Il n'y a pas, depuis 16 ans, une semaine où je n'ai pas reçu au moins une réquisition sur laquelle il y a écrit crédibilité, véracité des propos, tendance à la fabulation, etc., etc. Ce sont des réquisitions qui viennent dans la main de la victime qui vient nous voir. Elle n'est pas sous enveloppe. La victime, ça fait des jours qu'elle la lit, qu'elle la relit et qu'elle arrive chez nous dans un état de stress que je vous laisse imaginer. Donc nous jouons les équilibristes pour préserver nos patients. Et j'aimerais juste conclure mon propos sur les dangers et les dérives de ces éventuels glissements des demandes. Et je pense que les dangers et les dérives de ces éventuels glissements offrent une transition toute choisie au sujet au pluriel de cet après-midi, puisque la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos écrits ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Dans quel sens ils peuvent être orientés ou non, comment ils sont compris, dans le cadre des procédures sur le long terme, évidemment, mais pas seulement. Qu'en est-il des procédures courtes et qu'en est-il des classements sans suite ? Je vous remercie.